Les nuits, le jour. Alban Penaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassan Mbechour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous. En guise de mise en bouche, avant le programme d'archives par lequel nous rendrons hommage samedi prochain à la richesse et la variété de notre gastronomie, nous écouterons le célèbre critique gastronomique Kurnonski vanter l'importance de la cuisine française pour le rayonnement mondial de Paris dans un entretien enregistré en 1951 intitulé « Paris, centre de la cuisine française ». Et enfin, nous voyagerons du côté des douceurs caribéennes avec un numéro de l'émission de Bouche à oreille de René Elkaïm Bollinger. Et avant cela, direction le sud-ouest, à la rencontre de producteurs de produits d'exception en 1960, à la poursuite de la bonne chère.
Les nuits de France Culture.
Le foie gras, la truffe, le fromage, le vin de Bordeaux ou encore l'armagnac, voilà certains des produits français les plus emblématiques et les plus luxueux. Peu accessible pour les budgets modestes, il était un peu plus au moment de ce numéro d'édition spéciale du 30 décembre 1960, sans doute adressé à celles et ceux qui cherchaient de l'inspiration pour leur réveillon du nouvel an. Les journalistes Marie-France Pignano et Jean Bruno nous emmènent dans le sud-ouest de la France, à la rencontre des producteurs de ces produits d'exception. On y entend même Alexis Sutra, le seul producteur de caviar de toute la France, pour compléter la trinité des produits incarnant le luxe et qui font toujours aujourd'hui les beaux jours des restaurants étoilés. Caviar, foie gras et la truffe. À la poursuite de la bonne chère donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé. À la poursuite de la bonne chère. C'est dans la région du Sud-Ouest que nous suivons aujourd'hui Marie-France Pigano et Jean Bruno. Ils vont pour nous à la recherche des richesses gastronomiques propres à cette région. Des plus rares aux plus réputées, elles sont là, toutes succulentes, pour vous régaler. Nous ne sommes pas sur les bords du Don.
Monsieur Alexis Sutra, vous êtes le seul fabricant, on peut dire, de caviar en France, puisque la région du Sud-Ouest est une des plus importantes, si ce n'est la plus importante.
Oui, c'est la seule région où on pêche l'esturgeon.
Et on le pêche à quel endroit?
Eh bien, on la pêche dans l'estuaire de la Gironde, en remontant même un peu sur la Garonne et sur la Dordogne, de l'océan, si vous voulez, à Marmande, dans la Garonne, et à Libourne, dans la Dordogne.
Et quelle est la production de caviar annuelle?
De 2 à 3 tonnes.
Quand l'acheteur, n'est-ce pas, vend dans un magasin, comment se présente-t-il?
Eh bien, il se présente dans divers conditionnements qui vont des poveries à partir de 30 grammes et jusqu'à 100 grammes. Ensuite, c'est des boîtes en métal doré qui va de 150 grammes à 1 kilo.
Des boîtes d'ailleurs artistiquement décorées avec le pont de pierre, la flèche Saint-Michel et un esturgeon. Et quels sont à peu près pour l'acheteur les prix approximatifs?
Les consommateurs peuvent le trouver dans les magasins de détail. Ma foi, je crois, aux environs des prix frisant les 20 000 francs, quoi.
Monsieur Sutra, est-ce que les grandes villes de France seront alimentées en caviar cette année pour les fêtes?
Ah oui, dans toute la France, le caviar de la Gironde est diffusé, et même à l'exportation.
Où donc?
Il y a l'Allemagne, très bon client, l'Afrique du Nord, l'Angleterre et Madagascar, enfin la Nouvelle-Calédonie, qui est un gros consommateur, et enfin un peu dans toutes les parties du monde, même en Extrême-Orient.
Une tranche de foie gras, pourquoi pas? Mais laissons à M. Rougier, président du syndicat des fabricants de foie gras, le soin de nous parler de la production de foie gras en France.
La production nationale était l'an dernier de 400 000 kilos de foie gras, approximativement, évidemment.
Quels sont les départements producteurs?
Eh bien, dans l'ordre d'importance, les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Dordogne, le Lot, l'Aveyron, la Corrèze, et évidemment, alors, en dehors du sud-ouest, l'Alsace, qu'il ne faut pas oublier de citer.
Et le foie gras est très aimé à l'étranger?
Eh bien, le foie gras est, on peut dire, le fleuron de la gastronomie française à l'étranger.
Quels sont, justement, les différents pays étrangers qui achètent le plus de foie?
Par ordre d'importance, évidemment, et la logique le veut, c'est en tête les États-Unis, étant donné l'importance de la population de ce pays. Nous avons ensuite l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, les pays scandinaves qui sont aussi très importants pour nous.
Et maintenant, si l'on veut acheter pour les fêtes, n'est-ce pas? Des fois, il n'est peut-être pas possible d'acheter un kilo de foie ou une livre, mais on a la possibilité, je crois, de pouvoir acheter une tranche.
On peut évidemment acheter une tranche de foie gras dans des magasins comestibles ou dans des charcuteries spécialisées dans la vente du foie gras à la tranche. Actuellement, le prix de vente de ce foie gras doit osciller autour de 14 à 15 000 francs le kilo au détail. On peut également acheter des petits boîtages de foie gras, puisqu'on fait des boîtes de une personne, deux personnes, selon les nécessités des consommateurs. Le prix du foie gras en boîte est assez variable selon la qualité de ce foie gras, selon qu'il s'agit évidemment de foie gras pur ou au naturel ou de mousse de foie gras. Toutes les bourses peuvent accéder à une boîte de foie gras, que ce soit une boîte de mousse ou une boîte de foie naturel, selon les moyens de chacun.
Et bien sûr, qui dit foie gras dit truffe.
Nous sommes en plein cœur du Périgord noir, à Saint-Léon-sur-Vézère. Monsieur Deschaux, quelle est actuellement la production de truffes pour le département?
Pour le département, il faut compter de 20 à 25 tonnes.
Et le département se classe dans quel rang, à quel rang sur le plan national?
Au point de vue qualitatif, si l'on peut dire, n'est-ce pas? La discussion est depuis longtemps close, n'est-ce pas? Les truffes du Périgord sont les premières, n'est-ce pas? Cela tient surtout au cru.
Elles sont premières pour la qualité.
Pour la qualité. Pour la quantité, nous devons arriver au quatrième rang.
Oui.
Des départements français producteurs.
Mais vous êtes, au point de vue qualité, justement, très, très recherché dans le monde. Quels sont les pays qui achètent le plus?
Eh bien, les pays qui sont nos meilleurs clients sont en principe les pays anglo-saxons, l'Amérique, l'Angleterre, les pays de la communauté et les pays nordiques. Belgique également. La Belgique et la Suisse sont des clients importants.
Vous vendez dans les truffes dans des petites boîtes de fer décorées, c'est-à-dire depuis la pelure de truffe jusqu'à la truffe entière.
Jusqu'à la truffe entière qu'on appelle la truffe extra.
Et quel est à peu près le prix que l'on pourra justement demander aux acheteurs cette année?
La truffe préparée se vendra certainement dans les 15 à 18 000 francs le kilo.
Et pour la truffe pelure?
Pour la truffe pelure, il faudra s'en tenir aux environs de 10 à 11 000 francs kilo.
Jean Bruno s'est rendu à Pau pour demander à M. Louis, qui est un spécialiste en fromage qui revient des importants marchés des Basses-Pyrénées, qui s'intéresse au fromage du pays, quelles sont les caractéristiques de cette production locale?
Dans le pays, il y a beaucoup de brebis, et tout particulièrement, c'est du fromage de brebis, du pur fromage de brebis, du lait de brebis, et il dépend de certains pâturages.
Dans quelle ville en France peut-on trouver plus particulièrement de ce fromage du pays?
Mais je crois que, suivant le déplacement des gens, c'est-à-dire des gens du pays eux-mêmes, des Basses-Pyrénées, font arriver eux-mêmes le fromage, tout particulièrement, et peuvent le demander à certains spécialistes, alors de grands spécialistes en fromage.
Autrement dit, dans toutes les villes de France où il y a des spécialistes dignes de ce nom, on peut retrouver ce fromage du pays.
Mais tout naturellement, d'ailleurs il en est fabriqué suffisamment et en quantité suffisante de manière à ce que ce fromage puisse être vendu un petit peu partout.
Sur tout le marché national. Et puisque nous parlons de marché national, pouvez-vous m'indiquer quel est à l'heure actuelle le cours à la ferme ou bien à la foire, puisque vous en revenez?
Voilà. Ce fromage collecté est pris et amené bien souvent soit par des bergers, soit par des collecteurs sur des foires. Et à ce moment-là, tout le monde peut acheter, et les spécialistes tout particulièrement. Et il faut compter en ce moment, même pris à la ferme ou descendu à la foire, ce fromage arrive dans les environs de 900 francs le kilo.
Mais aussi, tout ceci s'arrose. Et c'est tout d'abord M. Martin, qui est président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, qui vous parle de la récolte des vins de Bordeaux.
Cette année, nous avons fait dans l'ensemble une récolte abondante et de qualité excellente. Nous avons notamment des vins rouges qui pourront soutenir la comparaison avec beaucoup de vins rouges de la fameuse année 1959.
Et les vins blancs ?
Les vins blancs, il y a des vins très réussis. Il y a des vins qui, malheureusement, ont été quelque peu gênés dans les derniers jours de la cueillette par les pluies persistantes.
Est-ce que vous êtes content des exportations?
Nous sommes satisfaits, oui, mais je pense que si les pouvoirs publics étaient à notre égard plus compréhensifs, nous pourrions certainement augmenter très sensiblement nos exportations.
Dans ces conditions, les exportations se maintiennent?
Se maintiennent, oui.
Est-ce que vous pourriez quand même nous indiquer, par exemple, à quel prix on pourra trouver des bouteilles de vin blanc ou de vin rouge en France?
Je pense qu'on pourra trouver, pour la fin d'année, des bouteilles de Bordeaux, simple Bordeaux, mais Bordeaux toujours très bon, aux environs de 3 nouveaux francs. Ce serait le prix plancher.
Bien, alors dans ces conditions, bien entendu, il y a une telle gamme de prix, parce que le Bordeaux commence à 300, mais finit à plusieurs dizaines de mille francs, même souvent pour certains crus, il y a tellement d'années, tellement de gammes, nous pouvons quand même dire que chaque Français peut avoir pour ses fêtes une bouteille de Bordeaux, blanc ou rouge, devrait la trouver à 300 francs.
Ah oui, madame.
N'oublions pas l'Armagnac.
L'Armagnac est un produit des Landes et du Gers, plus spécialement peut-être du Gers, mais enfin, on ne nous en voudra pas si aujourd'hui c'est M. Renaud des services agricoles des Landes qui va nous en parler. Quelle est la production d'Armagnac à peu près, monsieur?
Eh bien, l'année dernière, il y a eu environ 12 500 hectolitres d'alcool pur de distillé dans la région Gers, Landes et Lot-et-Garonne. C'est une production qui est en extension et nous pensons cette année atteindre certainement 20 000 hectolitres d'alcool pur.
Et quels sont actuellement les pays les plus intéressés par l'Armagnac?
Ce sont surtout les pays nordiques, singulièrement la Suède, la Norvège et l'Allemagne. Mais on exporte un peu partout dans le monde, pas mal en Amérique, en Italie, dans les régions d'Amérique du Sud et en Extrême-Orient également.
Et cette année, quels seront à peu près les prix? Est-ce qu'il y a eu une augmentation par rapport?
Une légère augmentation, effectivement, parce que l'Armagnac se trouve de plus en plus demandé, et mon Dieu, cela appelle une augmentation des prix, cela va sans dire. Les bouteilles sont de prix différents selon l'âge de l'Armagnac, mais on peut en trouver à 1300 ou 1400 francs pour les Armagnacs qui sont relativement jeunes, puis ensuite il faut augmenter ce prix pour passer à 1800 francs. Et pour des Armagnacs qui ont une dizaine d'années ou une douzaine d'années, ce qu'on appelle les VSOP, et les Armagnacs plus vieux atteignent des prix nettement supérieurs, tels que 2000, 2200, 2500, et pour les Armagnacs très vieux, alors il faut compter 3 ou 4 000 francs la bouteille.
Ainsi, en ces derniers jours de l'année, vous le voyez, toutes les tables du monde s'enrichiront des richesses gastronomiques de nos provinces.
C'était À la poursuite de la bonne chère, un numéro d'édition spéciale de Marie-France Pignano et Jean Bruno, diffusé pour la première fois le 30 décembre 1960.
Les nuits de France Culture.
Maurice Edmond Saillant, dit Kurnonski, est un véritable monument dans l'histoire de la gastronomie française. Ne vivant que la nuit, dînant dans les restaurants ou chez les hôtes les plus prestigieux, il rentrait ensuite dans son petit appartement pour écrire jusqu'à 7 heures du matin. Critique culinaire, doté d'une culture gastronomique hors pair, mais aussi romancier ou encore humoriste, il fut élu prince des gastronomes par ses pairs. Dans cet entretien, il évoque sa vision de la cuisine française et des traditions régionales essentielles à la gastronomie, avant de se focaliser sur la cuisine parisienne. Et là, surprise, on découvre que selon lui, de nombreux plats ont leur origine non pas dans telle ou telle région de France, mais dans la capitale elle-même. Parmi eux, la pomme de terre sautée par exemple, ou encore le lapin de Garenne empâté. Des affirmations desquelles nous laisserons débattre les historiens de la gastronomie, mais qui donnent toute leur saveur à cet entretien enregistré le 13 juillet 1951 pour l'émission « Si Paris a bonne mémoire ».
Un prince, vous savez que je suis assez embarrassée. Est-ce qu'il faut s'adresser à vous en vous appelant mon prince ou prince ? Enfin, je vois que vous n'êtes pas féru d'étiquette. Eh bien, monsieur Kurnonski, je serais curieuse de savoir si les hautes traditions de la cuisine française se maintiennent, si aujourd'hui elles sont bien gardées et comment ?
Les traditions de la cuisine française ne se sont jamais perdues, elles sont millénaires. Parce que notre cuisine est une des raisons que Paris a de régner sur le monde. Paris est le centre, comme vous le savez, et comme le monde entier le sait, le centre de la mode d'abord, le centre de la parfumerie, peut-être un peu le centre de l'art, et surtout le centre du 9e art, c'est-à-dire la cuisine. Parce que, naturellement, par la situation de Paris, tout afflue ici. On peut manger ici de toutes les cuisines du monde, mais il y a surtout les trois cuisines françaises qu'on peut déguster à Paris, c'est-à-dire la haute cuisine qui exige de grands chefs de génie, des Escoffiers, des Nilhac, des Montagnier, n'est-ce pas, des gens de grande école, et puis qui exige des produits qui deviennent maintenant un peu chers. Mais nous avons heureusement en France la cuisine bourgeoise, qui est parfaite parce que je suis très féministe en cuisine. Et je crois que les Françaises sont très naturellement de bons cordons bleus. Elles n'ont pas besoin de lire des livres de cuisine. Elles font ce que faisait leur grand-mère qui faisait ce que faisait leur grand-mère. Et comme ça, c'est très bien. Puis maintenant, nous avons la magnifique cuisine régionale française, car par une permission spéciale de la Providence, pas qui est la forme laïque du hasard, nous avons une cuisine régionale qui varie avec chaque province. Dans chaque province, il y a les plats, les mets, les spécialités, et presque partout les vins. Et bien, toutes ces cuisines, avec les moyens de transport dont on peut user aujourd'hui, toutes ces cuisines se trouvent naturellement reflues vers Paris. De sorte que vers Paris, on peut déguster non seulement toutes les cuisines du monde, mais tous les plats de notre admirable cuisine régionale. Maintenant, je crois que la tradition a été très aidée toujours par l'œuvre des grands clubs. Parce qu'il y a 50 ans, nous étions un peu envahis dans le monde entier, par la cuisine de palace, la cuisine à trois sauces, avec l'anglaise, la hollandaise et la redoutable espagnole qu'on faisait en raclant les fonds d'assiette pour faire riche et pour faire velouter. Et bien aujourd'hui, nous sommes heureusement affranchis de ces superstitions. Et de plus en plus, on fait de la cuisine simple. Et les grands clubs, je compterai parmi les grands clubs l'Académie des gastronomes, dont j'ai l'honneur d'être le président fondateur, les 100, les purs 100, l'Académie des gastronomes régionalistes, et un des plus vieux clubs de France, qui est excellent, qui s'appelle les GGG, c'est-à-dire les gays gentilshommes gastronomes. Tous ces clubs, n'est-ce pas, distribuent des prix, distribuent des diplômes et dans la limite de leurs moyens, de leurs possibilités, ils fondent des prix, ils aident des jeunes chefs, n'est-ce pas, et ils leur donnent des encouragements quantifiés.
Et la cuisine simple, la cuisine de cette perfection simple dont vous parlez, est-ce que vous savez que c'est surtout cette branche du 9e art, comme vous dites, qui nous intéresse, nous qui vous écoutons?
Mais c'est que je suis le vieux champion de la cuisine très simple. Je trouve que dans tous les arts, la simplicité est l'aboutissement de la perfection. Tout ce qui est beau au monde est simple, que vous preniez le Parthénon, la cathédrale de Chartres, ou le temple du soleil à Pékin, ce sont des choses de simplicité. Et un grand plat, et mon Dieu, comme une cathédrale, si vous voulez, c'est une chose simple, directe et claire. Et l'école de Paris, l'école de nos grands cuisiniers, était de mon temps, n'est-ce pas, sous la haute direction d'un maître admirable qu'on ne nommera jamais assez, à qui on ne rendra jamais hommage, c'est Escoffier. Et ben, à la dernière, au dernier paragraphe de son livre de cuisine, le père Escoffier a dit à ses enfants, ses élèves, et surtout mes enfants, faites simple. Qu'est-ce qu'a dit la Bruyère, qui est tout de même un des plus grands littérateurs du monde? Vous voulez dire, il pleut, dit-il, pleut. C'est le meilleur conseil qu'on ait donné, je crois, aux gens de lettres et aussi aux cuisiniers. Et j'en donnerai pour preuve que, à l'heure qu'il est, dans Paris, il y a en dehors des grands restaurants, la génération des grands chefs existe encore et la génération des jeunes chefs promet beaucoup, parce qu'ils font de plus en plus simple et il y a une école de jeunes maîtres à l'heure qu'il est, dont je vous en remets 50, mais qui travaille à Paris et qui travaille admirablement. Et moi qui aime la cuisine simple, ben, je vous dirais qu'à Paris, par exemple, je n'ai jamais été si heureux que quand j'ai simplement déjeuné chez de braves concierges. Parce que les concierges de Paris ont le secret de la soupe aux poireaux pommes de terre. Elles ont le secret du miroton, elles ont le secret du lapin giblotte. Elles les font admirablement. Elles font surtout très bien le café. Elles font très bien le café parce qu'elles laissent passer goutte à goutte dans un récipient bouillant. Et quand elles ont causé avec le vieux monsieur du second et la petite personne du sixième, c'est pas belle, le café, toc, 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 c'est fait pendant ce temps-là. Mais en dehors de cette cuisine charmante, pas des concierges de Paris, il y a en cuisine, il y a une école de Paris, parce que Paris, on ne se le figure pas assez, Paris est un grand centre de cuisine. Il faut bien se figurer que Paris a créé le potage Germini, la purée Crécy, la soupe aux poireaux, le boudin blanc de volaille, les pieds de mouton poulette, la sauce béarnaise, ce qui est assez curieux car
elle
la sauce...
Elle est de Paris.
Elle est parisienne, elle est Saint-Germain. Elle a été créée en 1860 au pavillon Henri IV. À Saint-Germain-en-Laye, elle a été appelée sauce béarnaise en souvenir du bon roi. Il y a un autre cas assez curieux, c'est le homard à l'américaine. Le homard à l'américaine a été créé par le chef provençal Fraisse chez Noël Peters en 1869 parce que ce jour-là, il était venu des Américains qui avaient dîné là et c'était le jour de l'indépendance d'eux. Et il leur a fait un homard, qui est maintenant dit à l'américaine, qui les a enchantés, et ils ont demandé qu'en hommage à leur visite, on baptise ce homard, homard à l'américaine. C'est en réalité un homard à l'armoricaine, parce qu'il a été fait par Fraisse, d'après la recette du homard à l'Agoudjistre. L'Agoudjistre, c'est le Calvados. Comme à ce moment-là, le cognac ne coûtait pas les prix qu'il coûte aujourd'hui, il avait remplacé le calvados par du cognac et il avait réussi une sauce admirable qui devrait s'appeler régulièrement sauce à l'armoricaine. C'était d'ailleurs l'avis de mon vieux maître Montagnier. Maintenant, Paris a encore créé la matelote est de Paris, le colin Bercy, le bœuf miroton, dont je vous parlais tout à l'heure, le bœuf à la mode, le Châteaubriand aux pommes soufflées, l'entrecôte sauce Bercy. Et alors dans le veau, tous ces triomphes, le veau chasseur, le veau maringo, le foie de veau Bercy, la noix de veau braisée, j'en passe et des meilleurs pour arriver au navarin de mouton, qui est un des grands plats pas classiques, si j'ose dire. Le navarin de mouton, l'épaule de mouton boulangère, les légumes. Paris est un centre de légumes admirable. Paris est bâti non pas dans un désert, mais dans un dessert, disait un vieux gastronome allemand d'ailleurs. Eh bien, Paris a créé les asperges à la sauce mousseline, les champignons parisiennes, et ce chef-d'œuvre de la création, les pommes de terre frites, qui est tout de même une des grandes choses de la terre. Paris a encore créé la fricassée de poulet, le poulet chasseur, le poulet maringo, et le lapin de Garenne en pâte. Et le lapin de Garenne, dans le temps, il y avait un pâté de Paris qui était fait avec du veau et du jambon, qui était essentiellement parisien, qui était une chose charmante. Et puis, pour le dessert, Paris a créé les choux à la crème et le Saint-Honoré.
En somme, je crois que nous avons encore de beaux jours et de bons repas devant nous.
Je crois que nous pouvons finir sur une parole d'espoir. Je trouve qu'on n'a jamais mieux mangé à Paris que depuis la guerre. Par la raison qu'il y a des chefs dans ce moment-ci qui se sont mis à faire simple et qu'il y a des petits restaurants qui ne sont pas très chers, où la patronne est au fourneau, le patron à la caisse et où la petite fille sert à table. Ou le contraire, où la petite fille est à la caisse et le patron sert à table. Ça nous promet, je crois, le plus bel avenir et nos fils peuvent l'envisager sans crainte.
C'était Paris, centre de la cuisine française. Un entretien avec Kurnonski, extrait de l'émission « Si Paris a bonne mémoire », enregistré le 13 juillet 1951.
Les nuits de France Culture.
Des cases aux entrailles riches en succulences et pas regardantes, et l'on s'y parque une vingtaine, et la rue est déserte, et le bourg n'est plus qu'un bouquet de champs, et l'on est bien à l'intérieur, et l'on mange du bon, et l'on en boit du réjouissant. Il y a du boudin, celui étroit de deux doigts qui s'enroule en volubile, celui large et trapu, le bénin à goût de serpolé, le violent à incandescence pimentée, et du café brûlant, et de l'anis sucré, et du punch au lait, et le soleil liquide des rhums, et toutes sortes de bonnes choses qui vous imposent autoritairement les muqueuses, où vous les distillez en ravissement, où vous les tissez en fragrance, et l'on rit, et l'on chante, et les refrains fusent à perte de vue, comme les cocotiers. Au milieu de cette explosion volcanique d'un verbe nouveau, extrait de Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, celui-ci ne peut s'empêcher de rendre hommage à la vibrante gastronomie de la Martinique. D'une richesse exceptionnelle, cette gastronomie est souvent peu connue en métropole. Pourtant, les spécialités ne manquent pas. Le calalou, la soupe de pied, les acras, la morue salée, sans oublier les fruits à la saveur incomparable qui poussent sur l'île, et notamment les dizaines de variétés de mangue qui ont chacune leur goût particulier. Ce numéro de « De bouche à oreille » de René Elkaïm Bollinger nous fait voyager du côté de ses douceurs caribéennes et d'une cuisine qui met l'eau à la bouche. C'est d'abord l'historienne et militante Mayotte Dauphit, puis la conservatrice Lynn Rose Beuse qui partagent avec nous leur savoir. Histoire gastronomique, contexte politique et souvenirs personnels se mêlent dans une émission aussi savante qu'appétissante, diffusée pour la première fois le 20 juillet 2003 et réalisée par Pascal Raillet.
Maman, j'ai faim.
On mange quand?
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange?
De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire. Aujourd'hui, douceur caribéenne.
Il faut un certain temps pour s'accoutumer à beaucoup de fruits tropicaux, ou du moins pour trouver la patience et l'inclination de les manger. Un grand nombre, bien qu'ayant un goût délicieux, ont vraiment des noyaux très agaçants, tels les goyaves mûres, les cerises et les barbadines. Même les corossoles et les pommes cannelles ne sont au fond que d'immenses noyaux très durs, enfouis dans une pulpe au goût exquis. Conte des tropiques, l'Afcadio Hearn.
Mais les douceurs caribéennes ne sont pas seulement friandises comestibles, elles sont dans le grain des voix dans les rues, dans la lumière sur les mornes et dans cet air fruité dont parle André Breton. Au ciel de ton front, le cri du flamboyant, au gazon de tes lèvres, la langue arrachée de l'hibiscus, à tes mâmes, la mangue fine, l'arbre à pain pour tous les tiens et le mansonnier pour la bête casquée. Au sommaire de Bouche à Oreille, juste un mot, Corossol. Reportage à Fort-de-France avec Lynn Rose Beuse, à Saint-Pierre avec Mayotte Dauphit et au CIRAD, Centre de Recherche Agronomique, avec Jean-Pierre Henry, Paul-Marie Alphonsine et Daniel Dusselier. Comment le goûtez-vous ? Micro-ondes. Juste un mot, Corossol.
Et le Corossol fait partie de ces espèces. C'est une anone. Il y a beaucoup d'anones comestibles qu'on retrouve. Je ne sais pas si elles sont originaires des Antilles, hein, mais il y en a comme dans toutes ces zones tropicales. Il y a du Corossol, mais je crois qu'il est en train de se raréfier, le Corossol. Si j'en juge par le nombre de demandes dont je suis saisi depuis quelques jours, tout le monde est en train de chercher du Corossol, ce qui voudrait dire qu'il se raréfie. Celui-là, il a des épines avec une forme de cœur un peu irrégulière. Il est souvent déformé pour des raisons de mauvaise fécondation, je pense.
Reportage au musée Gauguin à Saint-Pierre. Mayotte Dauphit a retrouvé pour nous le menu du 150e de l'abolition de l'esclavage en 1998.
Apéritif et boisson, mabillage et ponche, anis doux, eau de coco
à la gugus, cidre de mango, relevé, féroce, conquia sauce gab, entrée, soupes habitants ensuite, akra titiri, akra cribiche, massissi sauce tartare, rôti, boucan de cochon, migan frit à pain, koubouillon thon, sisi rôti, sisi c'est des petits poissons, des petits oiseaux, frit à pain, patate rôti, salade, papaye, en salade donc, zèbre couresse, chou palmiste, pourpier, dessert, gâteau patate, du riz doux, frit à pain en batterie, confiture et figue, macandia, vin choisi, café, café opiant, TPI. Et voilà.
On emploie rarement le mot sucre à la Martinique, si l'on considère que le sucre est encore le produit principal de l'île. On y substitue en général le mot doux. Cependant, doux a une signification plus étendue. Cela peut désigner du sirop et des bonbons quelconques, des doublés sous la forme de doudou. Cela signifie le fruit du corossol aussi bien qu'un amoureux. Saki le doudou est le cri du vendeur de corossol. Conte des tropiques, Lafcadio Hearn.
Alors Lafcadio Hearn, c'est un écrivain qui est venu à la Martinique en 1887. Il a d'abord fait la croisière, si vous voulez, sur le long des îles. Il était envoyé par le New York Herald Tribune. Et il habitait la Louisiane. Il est revenu en 90, il y a 2 ans. Mais il a été ici en 87 en même temps que Gauguin. Et nous avons 2 choses précieuses, Gauguin en peinture et Lafcadio Hearn en texte. Il a d'abord écrit un voyage d'été au tropique, quand il a fait la croisière. Et puis il a écrit Esquisse martiniquaise. Alors, Esquisse martiniquaise, Conte des tropiques. Alors, dans l'esquisse, ce sont des peintures de personnages. Hein. Dans les personnages, il y a les porteuses, il y a les lavandières, les blanchisseuses. Et puis, il a repris des contes qu'on lui racontait et qu'il a repris dans 3 fois Belle Conte. Et dans celui-là, Conte des tropiques, alors vous avez l'appelé, justement, Petit canotier, c'est l'histoire des petits garçons qui faisaient des espèces de barques avec des caisses, pour ainsi dire, et ils allaient près des bateaux. On leur lançait des pièces et ils plongeaient. Quand les bateaux arrivaient, les petits canotiers étaient ça, la fille de couleur, bête nu-pied. Et puis ma bonne, alors le chapitre ma bonne est particulièrement intéressant puisqu'il parle de la cuisine. Et à la Martinique, en 1887, à cette époque-là. Et il habitait chez une dame, Cyrilia, des gens très modestes, hein, et qui lui donnait à manger comme elle-même, elle mangeait. Peut-être un peu mieux quand même, mais enfin, il n'était pas chez les gens de fortunés.
Lorsqu'on achète de la viande fraîche, c'est en général pour faire une daube ou un ragoût. Sans doute la viande salée est-elle plus populaire et les légumes propres à l'île et la farine de manioc sont préférés au pain. Il n'y a guère que 2 potages populaires qui soient particuliers à la cuisine créole. Ce sont le calalou, un potage de gombo à peu près semblable à celui de la Louisiane, et la soupe d'habitants ou soupe paysanne. Conte des tropiques, Lafcadio Hearn.
On adore quand on fait le calalou, jusqu'à présent on le fait. On le faisait surtout le lundi et on y met un os de jambon quand c'est après Noël. Un os de jambon avec un peu de chair et puis le calalou, c'est gombo. Et puis nous avons ce qu'on appelle des herbages, c'est une espèce de feuille qu'on fait cuire avec. Alors ça vous donne une soupe verte, délicieuse. Il y a la soupe habitant qui est une soupe paysanne aussi, mais avec une diversité de légumes.
Giromonade. Soufflé de papaye verte, rougail de mangue verte, pâté en pot, soupe à Congo, soupes habitants, soupe de pied.
Alors, la nourriture préférée, la vraie viande du peuple, c'est la morue salée. Parce qu'autrefois, La morue salée, c'était la nourriture du peuple et le poulet, c'était la nourriture du dimanche. Je disais à des Suisses tout à l'heure qu'une fois dans le col des Mosses en Suisse, nous cherchions partout un poulet pour manger un dimanche. Et en Suisse, ils nous disaient, mais pourquoi voulez-vous manger du poulet? Nous mangeons tous les jours des pommes de terre et même le dimanche avec de la viande de porc. Mais ici, c'était le poulet le dimanche. Et en haut d'œuvre, le samedi, le beefsteak.
En haut d'œuvre,
hein, beefsteak, salade de cresson, par exemple. En haut d'œuvre. Avec peut-être le poisson après. Mais dans les maisons, quand même, un peu bourgeoises. On mangeait une fois par semaine la viande. Hein. Puis à part ça, c'était le poisson. Du temps de ma jeunesse. Et donc, maintenant, le poulet, c'est la nourriture du pauvre. Et la morue. Ça c'est complètement renversé.
Qu'est-ce que c'est la soupe de pied?
On fait que un pied de bœuf, un pied de veau. Vous ne connaissez pas ça?
Ah non, la soupe de pied.
C'est délicieux ça.
J'ai vu ça dans Chamoiseau, dans un livre de Chamoiseau.
Ah oui, c'est délicieux. On fait cuire le pied. En métropole, on fait les pieds panés, les pieds salés. C'est le même pied, mais c'est un potage, comme un potage de viande. Mais c'est gélatineux, c'est bon, hein? C'est très bon. Alors quand il y a un mort, on fait souvent, et vous savez, il y a la veillée, et on prépare à manger. Et souvent, on fait une bonne soupe de viande avec un pied. On ajoute un pied avec la viande et tout, toutes les carottes et tout le reste, tous les légumes. Et on sert comme ça aux gens qui sont à la veillée. Ça donne des forces. Il y a même, je crois, ils font même une espèce de sirop de pied, je crois, pour donner de l'énergie.
Lynn Rosebeuse, conservatrice des musées régionaux, a été commissaire de l'exposition « Histoire vivante d'une culture » à l'écomusée de la Martinique. Quelles sont les empreintes de l'Afrique dans les préparations culinaires des esclaves?
La plupart du temps, les cuisinières étaient noires. Donc, elles étaient obligées de faire preuve d'imagination avec les produits qu'elles avaient dans le jardin. Et souvent, on est toujours très surpris de voir que les maîtres, ils mangeaient souvent ce que les esclaves mangeaient. Hein? Alors, c'est vrai que lorsqu'il y avait des maîtres qui avaient une table raffinée, bon, on pouvait trouver des éclairs au chocolat, des choux à la crème, des dindes farcies, etc. Mais beaucoup, la nourriture de tous les jours, ça pouvait être un féroce d'avocat, ça pouvait être tout à fait un tinet mouru, ça pouvait être une viande salée avec un légume quelconque, ou bien alors une soupe verte, une soupe d'herbage, etc. Et les traditions culinaires n'étaient pas différentes. Ce qu'on pouvait trouver dans l'assiette de grand blanc était ce que faisait la cuisinière noire. Hein. Et les jours de fête, effectivement, peut-être qu'il y avait une petite différence. Mais ma foi, la nourriture de tous les jours pouvait être tout à fait la même.
Est-ce qu'on a retrouvé dans le langage culinaire, oui, on peut l'appeler le langage culinaire, des traces de langue africaine?
Oui. Oui, effectivement. Et en plus, il y a des produits qui été utilisés aussi en Afrique. Je prends les pois d'Angole, étaient utilisés en Afrique et donc étaient connus de toute l'ère des Amériques noires. Hein. Donc, par exemple, il y a quelque chose que l'on fait partout, dans toute l'ère des Amériques noires, il s'appelle les dombrés. Et qui sont en fait des boulettes de farine que l'on met à cuire dans des haricots. Et moi, j'ai vu que ce soit en Jamaïque, on fait des dombrés, à Trinidad, etc. Alors, autre petite chose qui est commune à toute l'ère des Amériques noires, et je pense qu'est une tradition bien africaine, ce sont des akras. Hein, ces petits beignets que l'on mange partout et qui sont assez courants donc en Afrique, les akras.
Le mot vient d'où ?
Je pense que ça doit être un mot africain. Je pense que c'est un mot africain, Accra.
Les flèches des Indiens Caraïbes sont faites de la tige que les roseaux poussent tous les ans quand ils veulent fleurir. Ils les ornent quelquefois avec des plumes de perroquet refendues et collées à 6 pouces près du bout. Mais cela est très rare et il est presque autant de trouver leurs flèches sans qu'elles soient empoisonnées. Ils font une fente dans l'écorce du mancenillier et y mettent le bout de leurs flèches et les y laissent jusqu'à ce qu'elles soient imbibées du lait épais, visqueux et empoisonné de ce mauvais arbre. Voyage aux îles, Jean-Baptiste Labat.
Il ne faut pas se reposer à l'ombre des mancenilliers. Lynn Rose Beuse.
Le mancenillier, c'est un arbre qui pousse en bordure des plages, d'ailleurs qui est très dangereux, puisque il a, d'ailleurs, on le distingue parce qu'il a un trait rouge là-dessus. Il est considéré comme une plante de résistance des Caraïbes, parce que c'est avec la sève de ses fruits que les Caraïbes empoisonnaient leurs flèches.
Est-ce qu'il y aurait parmi les fruits pays des fruits qui soient plus emblématiques?
Alors le fruit défendu, c'était chez nous c'est les pamplemousses. Mais le pamplemousse rose, hein, on l'appelait chadec rose. Donc on l'appelait le fruit défendu. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais comme au début il était peut-être assez rare. Et en plus que l'intérieur est complètement rouge, je ne sais pas pourquoi les gens l'appelaient le fruit défendu. Mais en fait, alors il y a un autre fruit par contre que les gens mangeaient avec beaucoup de... C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'interdits concernant les fruits. Par exemple, petite, on nous interdisait de manger des bananes le soir. À partir de 18 heures, il nous était interdit de manger des bananes le soir parce que la banane était considérée comme un fruit froid. C'est-à-dire, c'est un fruit froid, donc à partir de 18 heures, vaut mieux ne pas en consommer. Il y avait aussi une variété de mangue qu'on appelait les mangos zéphyrines. Alors, autour du mango zéphyrine, il y avait toute une espèce de légende. Moi, j'avoue que c'est un mango qui a une mangue du moins qui a dont le goût est très fin. Il y avait tellement d'interdits autour de cette mangue que moi, dès que je la voyais, j'ai toujours été terrifiée. Uniquement parce que on disait, mon Dieu, si jamais tu as chaud et que tu manges une mangue zéphyrine, mais ma pauvre, tu vas avoir une embolie pulmonaire. Donc moi, j'avoue que jusqu'à présent, manger pour moi un mangue zéphyrine, j'avoue que j'y vais vraiment à petit pas. C'est tout juste si je ne le mange pas dans une atmosphère climatisée. Hein?
Combien de variétés de mangues y a-t-il ?
Oh là là, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a facilement une centaine. Ah oui, parce qu'en plus... Bon, il y a des mangues traditionnelles. Ce qu'on appelle chez nous mangue, c'est au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il y a la mangue Julie, il y a la mangue Amélie et la mangue divine. Ça, c'est les trois variétés de mangues qui sont nobles. Mais plus particulièrement, la mangue Julie. Bon, mais à côté de ça, il y a une série de choses que nous appelons mango. Alors, ce sont des variétés plus ou moins bâtardes, mais qui sont extraordinaires. Il y a par exemple le mango bassignac. Le mango bassignac, c'est un mango qui est adoré des Martiniquais.
Quel goût il a?
Alors, il a un goût un peu... Il est très fort en térébenthine. Et souvent, on dit que le mango bassignac saoule quand il est très mûr, parce qu'il est très fort en térébenthine. Et effectivement, il a un petit goût un peu alcoolisé. Nous, enfants, on adorait ça. Et c'est vrai que le Martiniquais adore le mango bassignac, tout comme il aime bien la mangue Julie. Et à côté de ça, il y a le mango vert, le mango zéphyrine, le mango bassignac, je vous disais, le mango dican, le mango zo, le mango la rose, le mango... Enfin, écoutez, il y en a tellement que j'avoue que...
Ça fait rêver.
Que ça fait rêver. Et je vous avoue très sincèrement que chacune de ces mangues a un goût différent. Et puis, il y a aussi certaines traditions concernant certaines mangues. Par exemple, le mango vert, j'essaie de traduire en français, mais il camule en mantais. Ça, c'est comme ça qu'on le dit en créole. Mais disons, comme si on dit, il mûrit au lamantin. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on le cueille vert et on le met dans la paille de façon à ce qu'il puisse mûrir d'une façon protégée. Hein? Alors du coup, la pulpe de cette mangue est beaucoup plus onctueuse. Parce que le mango vert, c'est un mango, lorsque vous avez fini de le manger, vous enlevez des quantités de fils, de filaments, etc. Tandis que lorsqu'on le met à mûrir de façon confinée, la pulpe est onctueuse et si vous voulez, et se détache mieux, et comme une crème, disons. Alors on dit le mango vert, il est rassis.
Fort-de-France, le CIRAD, Centre de recherche agronomique pour le développement. Avec nous, trois agronomes et techniciens, Jean-Pierre Henry, Paul-Marie Alphonsine et Daniel Lusselier. Le manguier.
C'est un grand bel arbre hein, qui vit très vieux et qui a une écorce épaisse et fendillée, une ramure très développée, des branches importantes et des feuilles vert sombre, fines, étroites et longues. Et en cette saison, vous pouvez repérer les manguiers de loin parce qu'ils sont en fleurs et ils produisent des grappes en position terminale, des grappes de fleurs qui comptent à peu près jusqu'à 3000 fleurs par grappe en position terminale. Et la couleur varie. Le plus souvent, elle est rougeâtre, mais elle peut être verte.
On peut voir des fleurs de manguier.
Oui, on voit des inflorescences de manguier parce que la fleur doit faire 1 ou 2 millimètres de diamètre. Alors on la voit pas très bien, mais on voit les inflorescences qui comptent à peu près 3000 fleurs. Et le manguier a ça de particulier qu'il pousse par flush, c'est-à-dire que toutes les pousses. Le manguier ne pousse pas partout en même temps comme le ferait un pommier ou un pêcher. Le manguier pousse une fois d'un côté, une fois à l'est, une fois à l'ouest, une fois au nord, une fois au centre, une fois en bas. Il a des flushs différenciés et il fleurit de la même façon. C'est-à-dire qu'il commence à fleurir d'un côté et il continue de l'autre.
Le fruit se présente comment par rapport à l'arbre ?
Alors le fruit pend au bout de son pédoncule parce que l'axe de l'inflorescence, les inflorescences sont grandes pour avoir un nombre de fleurs comme ça, ça fait des inflorescences qui sont grandes et les mangues pendent au bout de grands pédoncules qui font 20 quelquefois plus de long, hein, pendent en grappes. Hein, chaque fleur de 3000 fruits peut donner 4-5 fruits. Quand la nouaison est bonne, et ça fait des grappes de mangue. Et comme une mangue, enfin un mango, ça peut être petit, mais une mangue cultivée, ça pèse de 300 à 500 grammes. Quand vous avez une grappe de 5 mangues de 500 grammes au bout d'un rameau, ça fait une production importante de fruits.
Caïmite, châtaigne pays, citron pays, corossol, goyave, mango bassignac, merise, mombin, noix de coco, pomme liane, prune chili, prune citère, quenette.
Effectivement, la quenette, on utilisait la quenette pour ce qu'on appelle chez nous le 4 heures de l'enfant, donc après la classe. Donc on donnait finalement quelques quenettes et ça pouvait remplacer le 4 heures de l'enfant après son. Bon, maintenant, bon.
Donc, ça pousse comment ?
Bon, c'était traditionnel, donc la période de quenette, c'était très fabuleuse. Donc on allait chez le voisin du coin, donc qui permettait finalement donc aux enfants du quartier de grimper dans les arbres et de récolter des quenettes parce que ça apportait énormément de fruits. Donc ça permettait effectivement de garder une certaine convivialité.
La sapotille. C'est frais.
Alors la sapotille, voilà aussi une variété qui est, je dirais, qui est une espèce qui est pratiquement en voie de disparition ici. Et c'est pourquoi nous avions à l'époque mis quelques arbres en arboretum. Hein. Et c'est une espèce qui, je dirais, qui permettait aussi de comparer les couleurs de peau et tout. On disait, par exemple, la jeune fille a la couleur de sapotille parce qu'on estimait que la couleur de sapotille, c'est une très belle couleur. C'est un fruit qui est très sucré, qui est très sucré, mais qui est très prisé par les chauves-souris. Hein? C'est un fruit qui est difficile à récolter sur l'arbre, donc il faut les récolter bien avant et les faire mûrir. Hein? Donc quand le fruit arrive à maturité, vous les récoltez, vous les laissez Vous le laissez dans un comment vous appelez ça, une corbeille de fruits, hein, et puis là ça mûrit finalement tout seul. C'est comme ça qu'on arrive à déguster un peu la sapotille. Si on essaie de laisser la sapotille sur l'arbre pour pouvoir récolter quand les fruits sont mûrs, ben là finalement donc on risque de ne pas en bouffer du tout.
C'est un goût délicieux d'ananas frais, un jeune goût un peu gai, enfantin. Il mâche l'ananas, il broie sa douce élasticité fibreuse. Quand est-ce que j'en ai mangé pour la dernière fois? J'ai aimé l'ananas. C'était comme du bois sans défense, écorcé. Il mâche. Le jeune goût jaune de bois tendre remonte doucement du fond de sa gorge. Il veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce sirop de soleil? Brunet, La mort dans l'âme, juin 40.
Comment on pourrait décrire un ananas? D'abord, ça pousse comment?
Eh bien, en fait, c'est vrai qu'il y a des idées reçues. On voit dans les arbres des fois donc ce qu'on appelle ananas sauvage, mais en réalité, celui que l'on consomme pousse de la terre, en fait. Hein. Il vient du sol. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a une tige d'ananas. Quand vous voyez le fruit, il y a une couronne. Ah, mais cette couronne peut, en fait, être plantée et donner un nouvel ananas. Donc, voilà, c'est la croissance normale donc, de la tige supérieure du fruit qui donne un ananas. Il y a d'autres types de rejets, mais en particulier ici, on utilise beaucoup celui-là.
C'est comme le bananier. Le bananier, tout le monde pense que c'est un arbre, alors que ce n'est pas un arbre, c'est une herbe. Et l'ananas, il n'y a pas d'enveloppe subirifiée, il n'y a pas de lignine, ce n'est pas du tout un arbre. Le seul rapport qu'il a avec un arbre, c'est qu'on dit que l'ananas, en fait, c'est la seule broméliacée qui soit tombée d'un arbre. C'est-à-dire qu'on connaît tous, tout le monde connaît les broméliacées pour en avoir dans sa maison, dans les pots et tout. Et ce sont les plantes qui poussent exclusivement sur des arbres. Et l'ananas, c'est la seule broméliacée en fait qui est tombée par terre et qui vit comme toujours pareil, mais au niveau du sol.
Mayotte d'ophite et la banane.
Alors, je vais vous raconter une bonne histoire. Depuis que je suis née, je mange des bananes jaunes. Vous avez vu les bananes jaunes? Ce sont des bananes à cuire, mais qui sont jaunes, qui sont belles. Hein, elles sont pas, elles, on ne les mange pas crues. Alors, j'avais peut-être 3 ans quand ma grand-mère est allée au marché. Je suis allée avec elle au marché et elle a acheté des bananes jaunes. Et puis quand, 11h, je la vois coucher, 3 ans, je la vois coucher, puis elle ne fait pas cuire mes bananes jaunes. Je commence à avoir faim. Je suis allée la secouer sur son lit. Banane jaune ailleurs, on m'appelle Mayotte. Banane jaune ailleurs, banane jaune ailleurs. Tout le monde s'est mis à pleurer. Ma grand-mère était exposée, elle était morte entre-temps. La désolation dans la famille de me voir l'appeler. La pauvre, elle ne pouvait pas venir me faire cuire mes bananes. Depuis, je mange des bananes tous les jours.
On va parler pâtisserie. Comment est-ce qu'on dit le... La pâtisserie sont les douceurs, non?
Oui, on dit douceur, on dit gâteau.
Lynn Rosebeuse.
On dit, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut dire sucrerie aussi, enfin, doudouce. On dit doudouce. Mais elle aimait doudouce. Elle aime les doudouces, c'est-à-dire les douceurs. Mm-hmm. Voilà. Moi, je me rappelle petite, lorsqu'on allait au marché et qu'on voyait donc la marchande de bonbons. Alors, il y avait les doucelettes, les pilibos, les sucres d'orge. Il y avait les tablettes coco. Alors, les tablettes, donc, c'est du coco râpé avec du sucre. Mais il y a une autre variété de douceur et de sucrerie à base de coco qui sont les lotios. Alors, les lotios, qu'est-ce que c'est? C'est toujours du coco râpé. Mais cette fois-ci avec le sirop batterie. Alors, qu'est-ce que le sirop batterie? C'est le sirop avant sa cristallisation, hein, avant qu'il ne devienne sucre. C'est donc cette mélasse épaisse que l'on mélange au coco. Et je vous avoue que c'est merveilleux.
Et la galette moussache?
Alors, il y avait aussi les galettes moussaches qui étaient faites donc à base de farine de manioc. Alors, au niveau des pâtisseries elles-mêmes, il y avait donc tous les gâteaux, alors les gâteaux à base de noix de coco et les gâteaux à base de confiture. Alors, confiture de goyave, confiture de banane. Alors, il y avait ou bien les gâteaux même à base de génoise, ou alors ce qu'on appelait chez nous les pâtés, mais qui étaient à base de pâte brisée. Donc, on fourrait de la pâte brisée avec des confitures de coco, de noix de coco, de goyave ou alors de banane. Alors, les pâtés, enfin, la pâte brisée avec de la banane, eh bien, on les appelle les pâtés cannelle. Et j'avoue que vraiment, c'est une des variétés de pâtisserie assez spécifique de la Martinique.
Comment les goûtez-vous, les graines bois, d'Aélodie?
Graines bois. Le long des clairières ou sur les lisières dans les bois antillais, on peut s'amuser à ramasser des fruits moins précieux que les créoles appellent graines-bois. Ce sont les pois doux, pommes roses, pommes d'eau, pommes d'amour, zikak, pommes liane, jujube, tamarin des Indes, caïmite, tamarin macaque, mangé-couli, quenette, merise, bonbon jeune fille, framboise, litchi, surette, cerise, raisin de mer. Les recettes de cuisine martiniquaise de Daélodie.
Micro-ondes. Dictionnaire érotique et littéraire des fruits et légumes, Jean-Luc Hennig, Albin Michel. De Lafka Diohard, esquisse martiniquaise et conte des tropiques au Mercure de France. Et de Jean-Baptiste Labat, voyage aux îles, Phébus, libretto. Bouche à oreille par René Caillon-Bollinger. Aujourd'hui, douceur caribéenne avec Mayotte Dauphite, Lynn Rosebeuse, Paul-Marie Alphonsine, Daniel Dusselier et Jean-Pierre Horry. Texte lu par Frédéric Cantrel, coordination Christine Gedge. Prise de son Stéphane Foulon, mixage Pierre Monteil, réalisation Pascal Rayet.
C'était Manger et boire en Martinique, douceur caribéenne. Un numéro de Bouche à oreille de René Caïn-Bollinger, diffusé pour la première fois le 20 juillet 2003.
C'était un avant-goût du programme d'archives Tour de France des gastronomies que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit, une nuit pour gourmets et gourmands. Nous irons dans le Périgord, à la recherche de la truffe, dans les vinstubes alsaciens, en Provence, goûter les 13 desserts du réveillon, nous régaler de mangue en Martinique, plonger dans la Gélise à Poudenas, dans le Lot-et-Garonne, ou encore déambuler dans des foires gastronomiques en tout genre. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits dès minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives à télécharger et réécouter quand vous voulez sur le site et sur l'application Radio France à la page des nuits. Les nuits, le jour, l'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.